Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
France Culture, bienvenue donc dans Soft Power en direct jusqu'à 20h30. Et comme chaque dimanche, Soft Power, le magazine des industries créatives et culturelles de France Culture, s'intéresse à la transition numérique, aux médias ainsi qu'à l'innovation et donc au Soft Power. SFR est un opérateur de télécom, fournisseur d'accès à Internet et une compagnie de téléphonie mobile. Elles sont abonnées des millions de Français. C'est aussi un géant des médias français avec BFM TV et RMC et toutes leurs déclinaisons fort nombreuses dans le sport ou le business, ainsi que l'Express, Libération, 01net Magazine. Je reçois ce soir Alain Veil, le patron du groupe qui appartient au milliardaire Patrick Drahi. Bonsoir Alain Veil.
Bonsoir.
Comment est-ce que vous définiriez l'ADN, comment dire, le métier principal de votre groupe, à la fois mi-télécom et bimédia ?
Au départ, SFR, c'est un opérateur télécom qui appartient à un groupe international qui s'appelle Altice, qui est présent dans plusieurs pays, aux États-Unis notamment, avec l'idée que la convergence des médias et des télécoms, c'est une réalité. Moi-même, je viens des médias. J'ai cédé mon groupe Altice il y a 3 ans, partiellement d'abord et totalement il y a quelques semaines après l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Avec Patrick Drahi, on partageait cette idée que médias et télécom ont affaire ensemble. On n'est pas les seuls à penser ça. Aux États-Unis, c'est un débat qui est aujourd'hui totalement mature. C'est
même Jean-Marie Messier y pensait déjà il y a quelques décennies, mais presque.
On y reviendra peut-être. C'était peut-être une question de timing, mais la vision n'était pas mauvaise. Il fallait que les réseaux soient là. C'est le cas aujourd'hui avec la 4G sur les mobiles, avec le très haut débit sur le fixe. Donc cette convergence est aujourd'hui une réalité. Donc l'ADN de notre groupe aujourd'hui, c'est médias et télécoms.
Une toute petite question sur l'information de nos confrères de la lettre de l'expansion, confirmée d'ailleurs je crois depuis. Vous prenez la tête du groupe Altice Europe, c'est-à-dire que vous allez diriger l'ensemble du groupe pour l'Europe.
Alors sur un plan opérationnel, le groupe va se séparer en deux, ça se fera le 8 juin prochain. La partie américaine d'un côté, la partie européenne de l'autre côté, et je deviendrai le directeur général de la partie européenne.
Ça comprend quel pays, quelle
grosse
entité ?
Alors ça comprend la France qui est évidemment le principal pays, le Portugal, Israël,
et puis en Europe, comme
une vision élargie de l'Europe avec la République dominicaine.
Alain Veil, président directeur général d'Altice France et donc désormais Europe et patron de SFR Média, est mon invité ce soir. Vous serez interrogé, Alain Veil, par nos chroniqueurs Pierre Aski de l'Obs et Zoé Sfès de France Culture. Bonsoir,
bonsoir
à tous les deux.
Bonsoir.
Toujours au sommaire de cette émission dans l'actualité, dans un instant on parle de Voltaire ainsi que de la guerre sans soldats grâce à l'intelligence artificielle. En seconde partie d'émission, vous reviendrez, Zoé Sfès, avec votre invité innovation sur la plateforme Parcoursup et son algorithme, comment dire, un peu fou.
Un peu fou, pas nécessairement fou, un algorithme qui entérine, disons, un changement de paradigme dans la manière dont les parcours supérieurs sont envisagés en France. Julien Gossa, qui est donc maître de conférence en informatique et qui suit de très près ces questions, nous expliquera concrètement, puisque lui sait lire cet algorithme. On sait qu'il est public, mais tout le monde n'a pas les moyens de comprendre exactement ce qu'il fait. On y reviendra avec lui à
20h. 20h10, le numérique et politique. Le débat de ce soir sera consacré à la proposition de loi en discussion cette semaine à l'Assemblée nationale. Faut-il interdire le téléphone portable à l'école? D'ailleurs, on doit l'interdire aussi dans les studios, soyez prévenus. Et si oui, comment on interdit le téléphone portable à l'école? Nous serons pour en débattre avec Romain Pigenel, ancien conseiller numérique et communication du président François Hollande, et Elliot Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Cette émission est réalisée par Sonia Leglen, avec en régie Anthony Thomasson. Elle a été préparée par David Lavaux, avec pour les réseaux sociaux Pierre Ledamani, car vous pouvez suivre cette émission également sur les réseaux sociaux, sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify, ainsi que sur divers réseaux sociaux comme Instagram, Medium, Facebook, LinkedIn, en podcast et sur France Culture en direct jusqu'à 20h30.
Je crois que Voltaire aurait été heureux de voir ce lieu qu'il a aimé, où il a reçu toute l'Europe, retrouver cette forme. Et ça n'est possible que parce qu'il y a la mobilisation de tous et toutes. Donc merci beaucoup pour cela. Je crois que tout le monde est fier et qu'au-delà de l'histoire, de cette mémoire ainsi retrouvée, de cette histoire de France et d'Europe. Ce sont aussi de nouveaux projets qui vont émerger, que c'est très bon pour Ferney Voltaire, monsieur le maire, que c'est très bon pour tout le département et toute la région.
Voilà, on écoutait à l'instant, entre les avions qui passaient au-dessus et
canards,
le crissement des
photographes,
les canards, voilà, le président Emmanuel Macron qui s'est rendu jeudi au château de Ferney-Voltaire dans l'Aisne, un château fraîchement restauré et qui a réouvert ses portes à cette occasion. Le président venait présenter la proposition issue du rapport de Stéphane Bern d'un loto du patrimoine pour sauver, dit le président, le patrimoine français en danger. Le président de la République n'avait pas choisi ce lieu par hasard, marchant ainsi sur les pas de Voltaire, ce qui lui a permis de déclarer, je le cite, « refuser la fatalité de la bêtise et le repli sur soi, telle est l'identité de l'esprit français, nous le devons à Voltaire et à son combat continu pour la tolérance, venir chez lui, à Ferney-Voltaire, c'est souligner la force de nos valeurs. Bel hommage, habile storytelling ou simple récupération politique de Voltaire, comment avez-vous, Pierre Aski, interprété cette visite ?»
J'ai surtout entendu un président qui peaufine une image un peu plus nuancée. Alors on se moque souvent de son discours de start-upper, et là il nous a fait vibrer avec l'évocation des vieilles pierres, du patrimoine. Et en fait, il a fait du Macron, c'est-à-dire qu'il a fait du en même temps. Il a voulu réconcilier la France supposée de droite qui aime le patrimoine et la France supposée de gauche qui aime la création, l'identité française et l'identité européenne. Il a présenté une sorte de synthèse, et le personnage de Voltaire est évidemment une manière habile pour avoir à la fois la philosophie des Lumières, et il y a fait référence plusieurs fois au cours de la campagne électorale, dans plusieurs de ses discours. Donc c'est un thème récurrent qui l'obsède un petit peu, retrouver la force de la France des Lumières, mais aussi...
À qui il s'adresse, Pierre Aski, selon vous, le président, lorsqu'il critique notamment, je cite, le repli sur soi et l'identité de l'esprit français qui serait la tolérance? Il parle au Front National, il parle à la France Insoumise, ou pourquoi pas aux Italiens, au moment même où l'extrême droite et le mouvement populiste 5 étoiles entre au gouvernement.
Vous avez donné une bonne liste de Usual Suspects, effectivement. Et en particulier, quand on pense au Voltaire qui a volé au secours des protestants pendant la période des persécutions, on voit bien les analogies qui peuvent être faites avec la période actuelle. Et donc, c'est le président du Rassemblement. Il a employé le mot réconciliation, qui était là aussi pas anodin dans le contexte actuel de division que connaît la France, sur tout un tas de sujets, qu'ils soient sociaux, effectivement, religieux ou philosophiques.
Manière aussi peut-être de contrebalancer son discours jugé trop pro-religion et pro-catholique devant les évêques de France le 9 avril dernier au Collège des Bernardins, vous croyez ?
Peut-être, moi je pense qu'il y a ça, puis il y a aussi, il faut le mettre aussi en rapport avec cette fameuse semaine très médiatique, parce que la semaine a commencé avec cette histoire de héros, vous savez, qui a sauvé un enfant dans le 18e arrondissement de Paris, et où il avait fait tout un discours,
Spider-Man français,
où il a reçu ce jeune homme en disant que quand on faisait des actes de bravoure, eh bien, quand on voulait la France, eh bien, on la méritait. Donc c'est un petit peu antagoniste avec des références à Voltaire, qui n'ont pas du tout cette notion-là, en tout cas d'ouverture. Il n'y a pas ça qui est présent chez Voltaire.
Il a cité de nouveau dans son discours aujourd'hui, enfin jeudi, le fait que la France avait besoin de héros. Il arrive à réconcilier en même temps Voltaire et le réfugié.
Une certaine idée de l'immigration choisie.
Et le Malien.
Bien, si vous voulez aller plus loin sur Voltaire, je vous recommande l'indispensable biographie de Pierre Milza qu'on avait lue il y a longtemps et qui a été rééditée en poche chez Tempus aux éditions Perrin. Même en poche, elle fait quand même 1050 pages, mais c'est Voltaire, ça le mérite. Alors, autre sujet d'actualité ce soir, un livre, Pierre Aski, qui vient de paraître il y a quelques semaines chez Norton aux États-Unis, livre non encore traduit, Army of None. L'ouvrage est signé Paul Scharr, qui réfléchit à l'évolution de nos armées transformées par l'intelligence artificielle et les drones. Une guerre avec des armes autonomes en l'absence de tout soldat humain sur le terrain.
Oui, le livre est titré, vous l'avez dit, Army of None, qu'on pourrait traduire de manière souple, une armée sans personne, et qui est sous-titré Les armes autonomes et l'avenir de la guerre. Donc on est vraiment dans un sujet tourné vers l'avenir, mais un avenir très proche, puisque ces technologies sont en train d'être développées. Son auteur, Paul Char, est un ancien soldat d'élite américain qui a servi en Afghanistan et en Irak, puis il a travaillé pendant 10 ans dans le public et le privé dans les technologies militaires. C'est donc un insider, quelqu'un qui parle de l'intérieur, ce qui ne l'empêche pas d'aborder la question des armes autonomes sous tous les aspects, y compris moral, qui est soulevé par les partisans de leur interdiction. Et ce qu'il décrit, il faut bien le dire, est assez terrifiant, parce que la recherche a accompli des progrès fulgurants pour rendre les armes non seulement plus intelligentes, ça c'est pas tout à fait nouveau, mais plus autonomes. On commence à les voir sur les champs de bataille. La Corée du Sud a ainsi déployé un robot garde-frontière, le SGR A1 de Samsung, à sa frontière avec la Corée du Nord. Un robot qui avait d'abord été décrit comme autonome, mais pour lequel Samsung a vite fait marche arrière en affirmant qu'un humain est toujours dans la boucle des décisions. La Russie a testé en Syrie un tank armé sans pilote de 14 tonnes, l'Uran 9, et Israël utilise un véhicule de patrouille autonome à la frontière de Gaza, le Guardium.
Ils ont tous des noms formidables.
Oui, mais Paul Char est allé voir ce qui se prépare aussi dans les labos de la DARPA, l'agence américaine chargée de la recherche dans les technologies de rupture et qui est dotée d'un budget absolument colossal. Alors des armes intelligentes, je mets des guillemets à intelligentes, il en existe déjà depuis longtemps, comme le système antimissile Patriot ou le missile Tomahawk, qui peut définir tout seul le meilleur moyen d'atteindre la cible qui lui a été attribuée. Mais aucune de ces armes n'est totalement autonome, c'est-à-dire dotée d'une capacité de choisir sa cible et de décider du moment de passer à l'acte. Cette perspective est techniquement envisageable dans l'avenir, mais elle pose plein de questions opérationnelles, éthiques, morales. Ce qui vient de se passer chez Google en est la plus parfaite illustration. Google a annoncé vendredi qu'il se retirait d'un projet de recherche sur l'intelligence artificielle financé par le Pentagone, le ministère de la Défense américain. Plusieurs milliers d'employés de Google avaient signé une pétition qui demandait le retrait de leur entreprise du projet Maven, qui visait à employer le savoir-faire de Google en reconnaissance faciale pour améliorer les performances des drones de combat. Leur crainte était que ces technologies ne permettent aux drones d'identifier tout seuls des cibles et de décider de manière autonome de tirer, sans tenir compte, par exemple, des dégâts collatéraux possibles sur une école ou un hôpital. Les démentis de Google n'y ont rien fait et la société a préféré se retirer. Les responsables américains qui sont interrogés par Paul Char disent tous qu'ils ne veulent pas créer d'armes totalement autonomes, sauf si, et c'est là le problème, sauf si les gens d'en face, les Russes ou les Chinois par exemple, le faisaient et obtenaient ainsi un avantage opérationnel, notamment en vitesse. C'est cet engrenage qui pousse la société civile à réclamer l'interdiction des armes totalement autonomes, mais dans le climat de nouvelle guerre froide actuelle, elle a peu de chances d'être entendue. Une petite anecdote racontée par Paul Char montre de quoi on parle. Le 26 septembre 1983, en pleine guerre froide, relancée par l'élection de Ronald Reagan, le lieutenant-colonel soviétique Stanislas Petrov est de permanence cette nuit-là quand le système de surveillance lui signale un tir de missile nucléaire américain en direction de l'Union soviétique. 5 missiles en tout qui mettraient quelques minutes à peine avant d'atteindre leur cible. Au lieu d'avertir le Kremlin comme il aurait dû le faire, Stanislas Petrov a réfléchi et il s'est demandé s'il n'y avait pas un bug. Car lancer 5 missiles seulement n'a pas de sens. La première frappe dans une guerre nucléaire doit être massive, car on sait qu'une partie des missiles ne parviendront pas à leur cible. Et il a effectué de nouveaux contrôles avec des radars plus classiques. Et il a réalisé qu'il s'agissait d'un phénomène climatique, rare, de reflet du soleil, qui avait déclenché l'alarme. Si le système de riposte avait été totalement autonome, nous explique Paul Char, l'URSS aurait déclenché la guerre nucléaire, et nous ne serions pas ici aujourd'hui pour en parler.
Paul Char, Army of None, vient de paraître aux États-Unis chez Norton. Et puis, je vous signale également le numéro spécial de Time Magazine ce week-end, The Drone Age, avec plusieurs articles passionnants sur l'âge des drones, avec d'ailleurs la magnifique une du magazine réalisée avec 958 drones qu'il a dû falloir faire partir en même temps dans le ciel pour illuminer comme ça le ciel et faire la photo qui fait la une de Time, un exploit. Dans un instant, je reçois Alain Veil, le patron d'Altice Europe et de SFR Media et donc de BFM TV, RMC, L'Express ou encore Libération. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur le nouvel album du rappeur Kanye West, révélé jeudi soir lors d'un show atypique dans le Wyoming aux États-Unis. Alors après avoir laissé entendre que l'esclavage noir avait été, je cite, un choix, et répété son soutien à Donald Trump, le rappeur noir fait l'objet de vives polémiques. On peut détester ses prises de position ou ironiser sur ses mises en scène People aux côtés de sa femme Kim Kardashian, mais Kanye West confirme non seulement son extrême liberté, tout autant que la qualité de sa musique parmi les plus populaires au monde en ce moment, ce dont témoigne ce morceau extrait de Ye, son nouvel album, superbe d'ailleurs, Violent Crimes, sur France Culture. Falling, dreaming, talking in your sleep. I know you want to cry all night. All night. Plotting. Reason to defend all of your violent nights. Promise me. Don't you grow up in a hurry. Your mama be worried. Oh, part of the story, even the scary nights. Thank you for all of the glory. You will be remembered all. Thank you to all of the heroes of the night. They gotta repaint the colors. The lie is
niggas is savage, niggas is monsters, niggas is pimps, niggas is players. The niggas had daughters, now they precautious. Father, forgive me, I'm scared of the karma. Cause now I see women as something to nurture, not something to conquer. I hope she like Nicki, I make her a monster. Now having menages, I'm just being silly. I answer the door like Will Smith and Martin. Nigga, do we have a problem? Matter of fact, Marlon.
France Culture, il est 19h, passé de 18 minutes.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Rebonsoir Alain Veil, vous êtes le président directeur général d'Altice France et Europe, directeur général opérationnel d'Altice Média, directeur général d'exécutif de SFR et de SFR Média. Beaucoup de titres donc, en gros vous êtes le patron de SFR et des médias du groupe, BFM TV, RMC, L'Express, Libération, etc. Un petit mot pour commencer, pour revenir sur votre carrière. Carrière d'abord dans la radio comme directeur du réseau Énergie, puis du groupe Énergie, Chérie FM, Nostalgie, Rire et Chanson, etc. Vous avez ensuite racheté la radio RMC, que vous avez repositionné sur l'info, le talk et le sport avec le succès que l'on sait, puis créé le groupe Next Radio, autour duquel en 2002 vous avez bâti en rachetant la radio BFM, que vous avez recentré quant à elle sur l'économie avant de candidater pour une fréquence TNT gratuite et lancer BFM TV qui deviendra sous votre direction la première chaîne d'information en France. Au fil des années, vous ajoutez BFM Business, RMC Découverte, BFM Paris, BFM Sport et plus récemment numéro 23 que vous réussissez à racheter après un bras de fer avec le CSA. Tout ça est un peu rapide comme parcours, mais on voit l'ampleur de la tâche. En 2016, vous devenez directeur général de SFR Média pour diriger l'ensemble des activités du groupe Média, du groupe Altice France, de Patrick Drahi, dont vous prenez les rênes, en tout cas de SFR et du groupe Altice France, puis du groupe Altice Europe tout récemment, après une crise sur laquelle on reviendra à l'automne dernier. Une première question, Pierre Aski.
Au début de l'émission, on parlait du rapport contenu-contenant et du fait que vous avez aujourd'hui les deux dimensions dans le groupe. Mais on a l'impression que vous avez freiné, voire stoppé la marche vers la convergence, qui était le mot fétiche il y a quelques temps, et qu'aujourd'hui vous faites plutôt des pas en arrière. Est-ce que c'est le cas ?
Non, pas du tout. Rien n'a changé. La priorité, c'est bien cette stratégie de convergence média-télécom. Mais comme vous l'avez rappelé aussi tout à l'heure, l'année dernière a été une année compliquée sur le plan commercial pour l'activité principale. Donc on s'est concentré ces derniers mois sur l'activité télécom.
SFR était en crise.
En donnant peut-être l'impression qu'on s'intéressait moins aux médias, mais c'est pas du tout le cas. Cette stratégie, elle est claire. C'est vrai que Jean-Marie Messier en avait parlé il y a 18 ans. Aujourd'hui, c'est une réalité aux États-Unis. Il faut bien voir que AT&T, l'un des tout premiers opérateurs télécom au monde, est en train de racheter Time Warner, c'est-à-dire CNN notamment. Le groupe Comcast aux États-Unis a racheté NBC, le groupe d'audiovisuel qu'on connaît bien. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les opérateurs télécom ont pour première activité de transporter des contenus. C'est pas la voix qu'utilise nos réseaux, c'est d'abord le contenu. Une entreprise comme Netflix, par exemple, certains soirs aux États-Unis, c'est plus d'audience que toutes les chaînes de télévision américaines réunies. Donc les habitudes sont vraiment en train de changer. Donc nos réseaux sont très utilisés par les entreprises qui transportent du contenu, YouTube par exemple aussi. Donc ça a du sens d'avoir une activité complémentaire qui consiste à investir dans le contenu. C'est-à-dire que notre chiffre d'affaires, il est principalement fait par les télécoms, mais ça a du sens d'investir dans le contenu, qui est une activité connexe très importante.
Court flashback, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce groupe, un empire à crédit, titré Le Monde, avec 50 milliards d'euros de dettes, chute spectaculaire du cours en bourse de l'ordre de moins 50% en 2017, un plan de départ volontaire avec moins 5000 collaborateurs, qu'est-ce qui s'est passé ? Et où en est-on aujourd'hui ? Quelle est la situation de ce groupe à crédit, dit-on ?
Alors, il s'est passé deux choses. La première, c'est qu'il y a quelques années, la France a décidé d'ouvrir le marché à un quatrième opérateur,
Free.
Voilà. C'est d'ailleurs, je ne le critiquerai pas, puisqu'à l'époque, j'étais administrateur de Free, donc je connais très très bien le sujet du côté de Free. Mais évidemment, ça a bouleversé le secteur. Ça a été l'opportunité d'ailleurs pour Patrick Drahi de reprendre SFR. C'est parce que SFR était en difficulté, comme Bouygues l'a été aussi, comme Orange l'a été aussi, que Patrick Drahi a pu racheter SFR.
À partir de Numéricable, notamment.
En partant de Numéricable. Donc, cette entreprise avait été déstabilisée par l'arrivée du quatrième opérateur. Son actionnaire n'avait plus investi depuis un moment. Donc, évidemment, ça a entraîné certaines complications dans la gestion et dans le fonctionnement de l'entreprise. Et puis, il y a eu un plan social important à gérer. Bouygues en a géré un aussi très important. Chez Orange, les choses se passent plus doucement. Il y a 5000 personnes qui quittent Orange tous les ans, qui ne sont pas remplacées parce que l'effectif est beaucoup plus important chez Orange. Donc tout le monde a dû se réadapter. Nous, ça a duré assez longtemps parce que quand on a repris SFR, on nous avait imposé de ne pas lancer de plan de départ volontaire pendant 3 ans. Finalement, on pense que c'est une bonne chose, notamment pour les collaborateurs, pour l'emploi. Et finalement, c'est pas une bonne chose parce que pendant 3 ans, il y a 5000 personnes qui savaient qu'elles allaient quitter l'entreprise, mais ne pouvaient pas le faire. Donc l'entreprise ne peut pas se réorganiser. Des gens qui ont envie de tourner la page ne peuvent pas le faire. Donc ça a été assez déstabilisant. Cette page a été tournée fin novembre. Et puis en quelques mois, on a remis l'entreprise à l'endroit. Et les choses vont beaucoup mieux aujourd'hui. On s'intéresse toujours au contenu.
Au niveau du crédit, de l'empire à crédit, un taux fixe certes, mais a commencé à rembourser à partir de 2023, dit-on. Les bases sont solides. Comment vous voyez l'avenir du groupe d'un point de vue capitalistique ?
Alors d'abord, quand on parle de 50 milliards, la somme est impressionnante, mais ça dépend à quoi on la compare. Ça dépend à la taille de l'entreprise, à son résultat. Donc ce sont des chiffres qui ne sont pas anormaux, surtout dans le secteur des télécoms. Les deux entreprises les plus endettées au monde sont les deux premiers opérateurs télécoms américains. On est dans un métier d'investissement dans les infrastructures en permanence. Les revenus sont très réguliers. Donc c'est vrai que c'est plus facile de s'endetter.
Déploiement de la fibre, la 5G bientôt.
Absolument, c'est plus facile de s'endetter dans ce métier que dans d'autres. Et avec la séparation du groupe entre les États-Unis et l'Europe, la dette en Europe sera de 30 milliards. Ce qui, rapporté au résultat, rapporté à l'activité, n'est pas un chiffre anormal. Mais évidemment, il faut avoir de bons résultats. Et le fait qu'aujourd'hui, on soit l'entreprise au premier trimestre qui est le plus recrutée, alors qu'on était le plus mauvais élève de la classe, on est devenu en quelques mois le meilleur élève de la classe.
Recruter d'abonnés, vous voulez dire.
Recruter d'abonnés. Évidemment, ça transforme les choses, ça donne des perspectives qui nous permettent de revenir à la situation au moment de l'acquisition, de la mise en place des financements.
Pour terminer peut-être sur SFR, juste en introduction, Pierre.
Vous êtes favorable au retour à trois opérateurs, parce que c'est un des sujets de débat et plusieurs pays
européens.
C'est-à-dire
la consolidation, faudrait-il aller vers une consolidation de 4 à 3 qui pourrait être le résultat de cette guerre des prix qui est en cours en ce moment chez SFR notamment, mais aussi chez Free.
Alors, sur des éléments objectifs, aux États-Unis, avec 4 opérateurs, ils vont passer à 3 dans quelques mois, 320 millions d'habitants. En Europe, pour une population à peu près similaire, 87 opérateurs.
Donc, mais en France, 4.
Donc. Et en France, 4. Donc il y aura une consolidation en Europe, il y aura, de notre point de vue, une consolidation en France. Elle n'est pas indispensable pour nous. On est cash flow positif, Orange aussi. Sur 4 opérateurs, il y en a 2 qui sont cash flow positifs, 2 qui ne le sont pas.
Ça veut dire qu'il y en a un qui va vendre ou être acheté.
Où il y aura des fusions, il n'y a pas obligatoirement un vainqueur
donc
et un vaincu.
Une fusion avec Bouygues, par exemple, que Bouygues vous rachète ou que SFR rachète Bouygues, c'est envisageable?
Là-dessus, je ferai évidemment aucun commentaire. Il y a aucun.
Mais en théorie, c'est sur le papier, c'est envisageable.
Il faut regarder les règles de la concurrence, etc. Il y a déjà une offre qui a été faite à Bouygues il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est pas un sujet qui est indispensable pour nous, même si on a une conviction sur le sujet.
Alors, pour en revenir à la première question de Pierre Aski sur la fin de la stratégie de la convergence, on a bien compris que vous continuez à investir dans du contenu. D'ailleurs, il y a une information du Figaro qui dit qu'un accord pourrait être signé dès le mois de juin pour fusionner le bouquet OCS d'Orange et Altice Studio, qui crée du contenu. Est-ce que c'est une information qui est exacte?
C'est une rumeur, donc évidemment, je ne peux pas la confirmer. On s'intéresse au sport. On a annoncé la semaine dernière qu'on allait lancer une nouvelle chaîne de sport. C'est le sport, dans la logique de la convergence, ça a du bon sens. C'est beaucoup d'audience, c'est très rapide. Vous achetez les droits, quelques mois après, vous pouvez diffuser les programmes. C'est du direct, donc c'est très facile à gérer, même si ça demande du talent, évidemment, pour avoir des chaînes de sport de qualité.
Et puis un peu
cinéma,
d'argent aussi.
Le cinéma, c'est l'autre axe et on y travaille. Et on fera sans doute des annonces dans quelques semaines pour préciser notre stratégie dans ce secteur-là, qui reste très ambitieuse.
Mais justement, là où Pierre avait raison, c'est que d'une certaine manière, comment est-ce que vous avez réussi à redevenir l'un des meilleurs élèves? C'est que vous avez complètement recentré vos offres chez SFR, où vous aviez des forfaits très chers avec toutes les exclusivités qui allaient avec. Et là, maintenant, vous avez des forfaits avec des offres moins chères. Et on rajoute des options plus sport, 5 euros si vous êtes client SFR et 15 euros si vous n'êtes pas client SFR. Et plus, je crois que c'est quoi? Comment ça s'appelle d'ailleurs? Live série pour avoir accès justement à vos fictions. Donc d'une certaine manière, oui, vous créez du contenu, mais vous déconvergez un peu.
Merci pour ce petit coup de pub sur nos offres.
Non, mais c'est quand même important de le dire.
Mais non, alors, encore une fois, peut-être qu'on s'explique mal, mais il n'y a pas du tout de marche arrière sur la stratégie de convergence. Encore une fois, on s'est concentré sur le recrutement des abonnés ces dernières semaines. C'est l'activité principale. Mais cette convergence, c'est une réalité dans le sens où je vous confirme que dans les années qui viennent, on continuera à investir dans le contenu. On veut avoir une part de marché dans les médias qui soit à peu près similaire à celle qu'on peut avoir dans les télécoms. Voilà fondamentalement quelle est notre stratégie. Alors, dans notre offre commerciale qu'on a revue ces dernières semaines, on a mis le contenu beaucoup plus en avant qu'auparavant. L'année dernière.
Mais il n'est plus obligatoire. C'est-à-dire, vous n'êtes pas nécessairement client SFR et donc vous n'avez plus de contenu exclusif directement quand vous êtes chez SFR. C'est moins cher que pour les autres, mais c'est plus automatique.
Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Ce qu'on a voulu faire, c'est ne pas imposer du contenu, notamment du sport par exemple, à des clients qui ne s'intéressent pas au sport, ce qui n'était pas le cas avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas investir dans le sport, ça veut dire qu'on veut avoir des offres mieux présentées pour ceux qui s'intéressent au sport ou ceux qui s'intéressent au cinéma. Donc on a créé des options et depuis qu'on les a lancées, c'est un très grand succès. Plus de 70% des clients qui s'abonnent prennent des options contenues, ce qui nous permet d'augmenter notre chiffre d'affaires par abonné, ce qu'on appelle l'ARPU. Et c'est bien l'objectif du contenu, c'est d'augmenter notre chiffre d'affaires et de vendre du contenu à nos abonnés en plus de l'activité principale qui est l'activité télécom, en leur offrant des programmes de qualité.
Est-ce que vous avez trouvé finalement un accord, apparemment oui, avec TF1? Vous savez que TF1 vous demandait de payer pour que ces chaînes soient disponibles sur les box de SFR. Cette tension est réglée maintenant?
Alors on était les premiers à trouver un accord avec TF1 dans un contexte, je dirais... plus consensuel que les autres opérateurs télécoms qui finalement sont arrivés à un accord. C'est peut-être parce que nous sommes à la fois un groupe de médias et un groupe de télécoms, donc on était des deux côtés de la barrière. Non, je crois.
Comme Bouygues aussi. Est-ce que Bouygues, je ne sais pas, contribue, vous paye pour diffuser BFM TV, par exemple ?
Nous avons signé des accords avec Bouygues.
Donc c'est une information.
Qui est déjà un peu connue. Mais effectivement, Bouygues Télécom va rémunérer nos chaînes, notamment pour les services associés. C'est toujours ce qu'on a dit depuis le début. Les habitudes changent considérablement dans la façon de consommer la télévision. Demain, il y aura plus de Français pour regarder la télévision délinéarisée que linéarisée. C'est déjà le cas pour certains programmes qui s'adressent à un public plus jeune. Donc, les chaînes sont amenées à développer beaucoup d'offres délinéarisées. Ça représente un coût et il est logique que les opérateurs télécoms rémunèrent ces services supplémentaires. Ils y trouvent un avantage aussi parce que les abonnés sont satisfaits d'avoir ces services délinéarisés que l'hertzien ne peut pas proposer.
Et puis il se trouve, comme vous le rappeliez, que SFR a des contenus, donc ce qui est moins le cas de Free par exemple, ou même parfois pour une part d'Orange. Donc
Mais Free, regardez, Free a racheté le groupe AB l'année dernière, qui est un groupe important de chaînes de télévision. Alors, ouais. C'est pas Free qui l'a acheté, pardon. C'est un fonds d'investissement dans lequel Xavier Niel a une participation. Mais je veux dire, quand Xavier Niel, que je connais bien et que je respecte beaucoup, et j'ai même beaucoup d'admiration pour lui, pour tout ce qu'il a fait, quand il investit fortement, c'est quand même un peu dans les médias. Et puis, j'ai lu la semaine dernière que Free, pour la première fois, avait été candidat à l'acquisition d'une partie du football français pour un lot secondaire.
Complémentaire,
mais ils l'ont fait.
Bon.
Et puis Xavier Niel, il a Le Monde, il a le Nouvel Obs ou l'Obs. C'est pas dans un autre secteur qu'il a investi.
Juste un mot sur retour sur le cinéma, le rapprochement possible avec OCS, le système d'Orange. Est-ce que c'est le fantasme du Netflix à la française qui vous guide? Parce que Netflix a des positions très fortes en France depuis qu'il s'est implanté. Mais on parle depuis que Netflix est là d'un Netflix à la française sans encore le voir.
Et vous voudriez que ce soit Alice Studio d'une certaine manière?
Ou Alice plus OCS?
Alors, on croit au sport, on croit à l'information, on croit au cinéma et aux séries. Dans ce secteur-là, il faut être puissant. C'est pas obligatoirement du délinéarisé. Je pense qu'on peut toujours offrir des chaînes linéaires parce que c'est un service, c'est comme un journal, il y a une ligne éditoriale. Donc finalement, on a confiance dans la programmation de la chaîne. C'est un vrai service qui est apporté. Parce que sinon, demain, dans la presse, les gens ne liraient que des articles et n'achèteraient plus de journaux. Moi, je n'y crois pas. Je crois que les gens seront attachés toujours à des marques,
chaîne précise,
à une promesse,
un groupe.
En presse, en télévision. Donc, Altice Studio, c'est une chaîne de télévision.
Combien vous allez investir dans la production audiovisuelle, par exemple?
Alors, on fera des annonces
On parlait de 160 millions d'euros il y a quelques... en 2017, on disait...
Oui, c'est pas loin d'être le coût de tout ce qu'on fait dans le cinéma et les séries, ce qui est déjà une somme très, très importante. Donc on veut réorganiser ces investissements. Et je pense que pour se démarquer de Netflix, notre objectif, c'est pas du tout de concurrencer Netflix.
Oui, parce qu'ils ils investissent 7,5 milliards de dollars cette année, rien que dans les contenus, presque 8 milliards, c'est beaucoup plus, évidemment. C'est même...
Mais je pense que des opérateurs français comme nous, comme Orange, comme Canal, doivent continuer à investir. La différence est peut-être d'investir plus dans le cinéma français, ce que Netflix ne fait pas encore beaucoup aujourd'hui.
Ou mal.
Mais ils y viendront. Ils y viendront.
On investit dans le cinéma français en installant ses studios Altice au Luxembourg.
Écoutez, sur ce sujet, moi je suis très à l'aise. On ne peut pas d'un côté avoir des GAFA, dont Netflix,
qui sont libres de tout.
Qui agissent tout à fait légalement face à la faiblesse des décisions des États européens et empêcher un groupe international européen d'installer une partie des activités au cœur de l'Europe.
Donc il faut quoi? Il faut changer la chronologie des médias, il faut l'adapter et il faut par ailleurs faire en sorte que si on est installé au Luxembourg ou en Irlande, on ait quand même des contraintes qui pèsent sur les Français.
Mais, oui, nous, spontanément, on a dit que pour notre chaîne qui est en France, on respecterait la réglementation française en matière de programmation. Donc on est très détendu sur le sujet. On n'a pas d'avantages fiscaux à être au Luxembourg, mais on a un groupe international qui a un certain nombre d'activités qu'on a décidé d'installer au Luxembourg. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait classique. Et encore une fois, soit l'Europe existe et s'installer au Luxembourg, c'est pas un crime, ou alors ça pose vraiment un problème et on peut être inquiet sur l'avenir de l'Europe.
Comme vous le savez, le cinéma français est notamment financé par deux voies. D'une part, la production de cinéma qu'on impose à un ensemble de chaînes, et d'autre part, la taxe sur les opérateurs de téléphonie mobile. Canal+, on l'a vu, est un peu affaibli en ce moment, donc ça veut dire que la production va un peu baisser. Ce que va rapporter donc Canal+, au cinéma français pourrait un peu baisser. Est-ce qu'il faut augmenter la taxe des opérateurs de télécom pour compenser?
Alors, l'exception culturelle française, globalement, moi je pense que c'est une bonne chose.
Vous y êtes favorable?
Le cinéma français existe beaucoup plus que dans les autres pays européens ou à travers le monde, et c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'il y a une règle du jeu qui a été créée avec des systèmes de financement qui finalement font qu'effectivement il y a un certain nombre d'œuvres françaises qui continuent à être produites tous les ans, et c'est très bien. Mais par contre, il ne faut pas protéger des acteurs par rapport à d'autres en augmentant des taxes. Les opérateurs télécoms sont déjà les entreprises les plus taxées du pays et sans doute au monde, parce que c'est vrai que...
Les automobilistes disent ça aussi, les sociétés comme la SACEM disent ça aussi.
Les fumeurs. Oui, mais sûrement, ils ont sans doute raison. Mais on peut pas, ou il faut être cohérent, parce que c'est facile de mettre une taxe en plus. C'est facile, ça ne demande pas d'effort, ça ne demande même pas de talent. Par contre, on peut pas demander aux opérateurs télécoms de payer des taxes en plus, de fibrer tout le pays en 3 ans, de faire qu'il n'y ait plus de zone blanche pour le téléphone mobile,
de déployer
dans
la 5G,
les 2 ans qui
etc.
viennent. SFR, c'est 2,5 milliards d'investissements par an. On est une des entreprises qui investissent le plus. Alors, soit on investit encore plus, et c'est pour le bien des Français aussi, soit on nous taxe plus et on ira moins vite et on dépensera moins
et
d'argent.
Sur la question de la chronologie des médias, pardon d'y revenir, mais vous êtes favorable à un assouplissement d'une chronologie qui est aujourd'hui un peu incompréhensible, en tout cas pour les utilisateurs, puisqu'il faut attendre parfois jusqu'à 36 mois avant de voir un film en numérique après sa sortie en salle.
Bien sûr qu'il faut assouplir la chronologie des médias. Chez Netflix, il n'y a pas de chronologie des médias. Les films...
En fait, il y a une chronologie des médias, mais elle est décidée producteur par producteur, film par film.
Chez Netflix, les films sortent à la télévision le jour de leur sortie. Il n'y a pas de sortie en salle.
Oui, mais là, vous parlez pour les séries, mais pour les films,
non,
c'est toujours après.
Non,
c'est vous,
Netflix.
Sauf pour les films qui sont que...
Netflix va sortir cette année 80 longs métrages.
Directement sur sa plateforme.
Oui, mais parce qu'ils ne sortent pas en salle.
Voilà.
Mais oui, mais je veux dire, pour le téléspectateur qui n'a pas envie d'aller dans la salle ou qui ne peut pas aller dans la salle ou qui n'a pas les moyens d'aller à la salle, le film y sort.
Mais admettons qu'il y ait quand même la salle, donc 4 mois, etc. Est-ce qu'il ne faut pas diminuer? Alors, quelle est la bonne date? C'est difficile à dire, mais peut-être laisser tout simplement au producteur le choix après 4 mois ou 12 mois ou pour certains films, ce qui est le cas sur Netflix. Vous ne voyez pas le nouveau Spider-Man ou Black Panther sur Netflix. Ils attendent généralement 24 ou souvent 36 mois. Donc, il y a une chronologie des médias, mais simplement, elle est décidée librement par les producteurs au coup par coup, film par film.
Non, j'ai beaucoup regardé ces derniers mois tout ce sujet de la chronologie des médias. On a été auditionnés. Faut pas qu'il y ait de malentendu. Moi, je suis pas pour qu'on supprime la chronologie des médias. Mais c'est parce que souvent, dans les discussions, il y a encore aujourd'hui des excès qui sont excessifs. Oui, des excès excessifs, pardon, d'utiliser cette redondance. Mais finalement, elle est assez adaptée quand même à la situation qui est parfois ubuesque. J'utilise aussi cet adjectif à bon escient parce que pour beaucoup de Français, les habitudes pour consommer le cinéma sont en train de changer. Il faut tenir compte de Netflix, il faut tenir compte d'Amazon Prime Video, il faut tenir compte de la plateforme que va lancer Apple aussi sur le cinéma. En même temps, oui, il faut que les gens continuent à aller en salle, mais il ne faut pas nier, il ne faut pas être dans le déni.
On ne peut pas se tirer une balle dans le pied en tant que Français, d'être les seuls à...
que certains sont dans le déni en rêvant d'un monde qui est passé, mais sans... Moi, je ne pense pas que le monde futur soit vraiment inquiétant.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
France Culture, il est 19h, passé 39 minutes. Mon invité Alain Veil, ce soir, le président directeur général d'Altice France et Europe, directeur d'Altice Média et aussi d'SFR Média, patron d'SFR par ailleurs. On a parlé d'un certain nombre de sujets, on va évoluer tout à l'heure vers la presse, notamment BFM TV, RMC, L'Express, Libération, dont vous êtes également le patron. Parlons un instant avec vous, Pierinski, des droits du sport.
Alors, vous avez beaucoup investi dans les droits du football, et puis il y a quelques jours, il y a eu ce que vous avez décrit comme un séisme incroyable, ce sont vos mots, c'est-à-dire le fait que les droits du foot français ont été obtenus par un groupe espagnol qui appartient à lui-même à un groupe financier chinois et qui veut lancer une chaîne en France.
Un fonds chinois. MediaPro.
Qui veut lancer une chaîne de football en France. Alors, est-ce que ça vient pas perturber, pour employer un mot faible, vos projets? Alors, vous n'avez pas participé à ces enchères sur le foot parce que...
Vous n'y avez pas participé ou vous l'avez fait sans que ça...
Ah. On n'y a pas participé.
Du tout.
Du tout. Bon.
Mais est-ce que ça ne vient pas perturber ou torpiller le plan que vous étiez en train de déployer avec l'annonce d'une nouvelle chaîne RMC Sport, etc.
Je suis d'un tempérament optimiste, mais je pense au contraire de vous. Je pense qu'au contraire, ça ouvre énormément le jeu parce que les habitudes vont changer. C'est ça le séisme. Avant, il n'y avait que Canal Plus. Aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui arrivent.
Mais ils sont plus français, ce coup-ci. Oui, d'un côté, les Chinois de l'autre.
Oui, MediaPro, c'est une entreprise qui a été créée en 1994. C'est toujours son fondateur qui en est le dirigeant.
Espagnol, voilà.
C'est pas non plus une entreprise qui vient de nulle part, comme on aimerait le croire en France, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Cette entreprise, elle a les droits du football espagnol. Elle avait acheté les droits du football italien, même s'il y a un litige. Donc c'est tout sauf une surprise, finalement, de voir MediaPro arriver en France. C'était écrit, puisqu'ils ont acheté le football espagnol.
Alors vous avez les droits de la première ligue anglaise, oui. Cependant, parmi les plus chers au monde, que vous diffuserez à partir de septembre.
Champions League.
Champions
et la première ligue anglaise aussi.
Quelle est votre stratégie dans ce secteur?
Eh bien, l'idée, c'est de proposer à nos abonnés une offre extrêmement complète. Les abonnés d'SFR, à cette date, vont être les seuls à avoir 100% du football. Canal+, avec le championnat de France de football, beIN Sport avec le championnat de France de football, et RMC Sport avec la Champions League et la Première Ligue. Donc nous, on va fabriquer une chaîne, on va lancer une chaîne premium, prestigieuse, parce que la Champions League, elle est prestigieuse. En plus, on a un peu de chance parce que les clubs français ont progressé et donc on va avoir plus de clubs français cette année, des clubs qui sont en forme, qui demain d'ailleurs auront plus d'argent avec la renégociation des droits du football français. Donc cette offre va être de très grande qualité. J'espère qu'elle va séduire nos abonnés. J'espère qu'on va en recruter encore plus. Et puis peut-être que les concurrents d'SFR souhaiteront distribuer cette chaîne, ce qui est tout à fait possible, parce que cette chaîne RMC Sport, elle est autonome. C'est une chaîne payante. C'est vrai qu'elle a...
Elle devait s'appeler SFR Sport un peu au début, non?
Elle s'est appelée SFR Sport.
Mais ils ne voulaient plus la distribuer chez Orange et chez Free parce qu'elle s'appelait SFR, donc vous l'avez rebaptisée RMC Sport, c'est un peu ça l'histoire?
Comme on le fait pour le cinéma actuellement, on a réfléchi cet hiver sur la stratégie sport et dans les discussions qu'on a eues avec Patrick Drahi, on a considéré que cette marque RMC Sport était plus légitime parce que c'est une marque qui est forte dans le sport. Elle permettait de travailler plus facilement avec nos concurrents. Et c'est vrai que la vision qu'on a eue aussi, c'est de rendre indépendante cette activité de pay TV de SFR. Alors, il se trouve que SFR est évidemment un partenaire naturel, mais RMC Sport peut très bien travailler demain avec Orange ou avec Free ou avec Bouygues si on s'entend sur les conditions de distribution.
Alors, est-ce que justement, on peut vous poser une question, transition toute trouvée, on parle des médias, sur la stratégie télé, on va parler de l'Express et de Libé, en fait, il y a quand même des choses assez étranges, parce que vous avez à la fois, effectivement, toutes ces chaînes dont on vient de parler, vous avez RMC, et vous avez RMC qui est une chaîne de radio, dont la matinale est diffusée sur une télé qui s'appelle RMC Découverte, dont l'une des émissions phares, Les Grandes Gueules, est diffusée, elle, sur numéro 23, et dont l'After Foot sera donc diffusée sur SFR Sport, BFM Sport. On a l'impression BFM Business, qui était au début une télé, a été délogée par la création de BFM Paris. Comment est-ce qu'on s'y retrouve avec toutes ces télévisions et ces espèces de morcellement et ces radios? Parce que cette chaîne, qui est quand même une identité assez forte, RMC, est complètement éclatée comme ça sur toute une série de réseaux. Évidemment, parce que vous avez racheté toutes ces chaînes avec des cahiers des charges qui ne vous permettent pas de tout mettre au même moment.
Alors, je vais essayer de vous expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne bouge pas dans la période actuelle, quel que soit son métier, son secteur, on est mort. Donc, nous, on essaye d'être réactif, de s'adapter. Moi, ce à quoi je crois beaucoup, c'est à la convergence, certes, entre les télécoms et les médias, mais avant, il y en a une autre, c'est entre les télés, les médias radios, eux-mêmes. Parce que la technologie, et on revient tout de suite au mobile ou au télécom, la technologie fait que les images sont aujourd'hui très faciles à transporter. Ici, là, on est entouré d'écrans. Il y en a peut-être qui nous voient sur Facebook actuellement. Donc la convergence radio, télévision, internet, télécom, c'est une réalité ici dans ce studio sur France Culture ce soir. Donc nous, on essaye de s'adapter. Moi, je suis très fier de cette stratégie de convergence radio-télévision, parce que c'est vrai que ça fait 11 ans qu'on l'amène et que souvent on a tendance à subir les phénomènes, les tendances, et là on l'a un peu anticipé. Et ça marche bien. Donc on a commencé avec Jean-Jacques Bourdin qui était sur RMC pour son interview politique et sur BFM TV. C'était en 2007, à un moment où les candidats ne voulaient pas venir sur les chaînes info. Ils venaient que sur les radios le matin. Et c'est comme ça que BFM TV a pu être la seule chaîne d'info qui a eu des candidats en 2007, parce qu'ils pensaient venir à la radio et ils venaient aussi à la télévision. Je me rappelle d'un François Fillon fou furieux un matin parce qu'il n'avait pas compris qu'il passait aussi à la télévision. On a continué après avec BFM Business. C'est vrai que c'était une radio économique qui marche bien. Et on s'est dit que faire de cette radio une chaîne de télé, c'était facile parce que une radio économique, c'est une radio où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'invités. Donc c'est très sonore, assez peu d'images, et l'image c'est beaucoup des courbes, l'illustration des cours de bourse, des tendances. Donc c'est ce qu'a apporté la télévision, on y a même ajouté des reportages, et ça a très bien marché. Et ça a été une façon de protéger la radio, qui est un média qui est challengé par le digital, comme tous les médias, parce que maintenant nous partageons les coûts entre radio et télévision. Résultat, RMC aujourd'hui est la radio la plus rentable de tout le paysage des radios françaises, à un moment où d'autres radios
généralistes, ouais,
importantes ont des difficultés. Donc, placer toute la matinale de Jean-Jacques Bourdin sur RMC Découverte, les grandes gueules sur numéro 23, ça fonctionne. Mais pour finir mes explications, un petit scoop ce soir, c'est que RMC Découverte, on connaît, numéro 23 prendra le nom de RMC, à partir du mois de septembre. On y ajoutera un mot qui sera annoncé cette semaine. Voilà la cohérence aussi des marques. Vous l'aviez relevé.
Rappelons que numéro 23, vous venez enfin après l'accord qui a été finalisé. Ça a pris du temps.
Beaucoup trop de temps, mais on y est arrivé. Voilà, parfois au détriment des téléspectateurs qui attendent. Mais cette chaîne...
Enfin, ils n'attendaient pas numéro 23 tous les jours.
Non, mais il y a peu de chaînes hertziennes. Il y a peu de chaînes hertziennes. Donc elles ont l'obligation de proposer des programmes de qualité. Et nous, ça fait 3 ans qu'on attend pour accélérer le redéploiement.
Ancienne chaîne de la diversité qui sera peut-être plus une chaîne de la diversité.
Elle le sera plus que jamais.
Un petit mot quand même de votre titre de presse de ce groupe, justement. Évidemment, on a parlé effectivement de ces mutations. J'espère que peut-être on aura un autre scoop, même si j'y crois pas beaucoup. Un mot de l'Express et de Libération. Je rappelle que Patrick Drahi a racheté en 2015 le groupe L'Express au Belge Roularta, qu'il a réorganisé le groupe et ramené les effectifs de 700 à 500 salariés, qu'il a fusionné ensuite l'expansion, bien que la lettre de l'expansion donc reste en vigueur avec la rédaction de l'Express. Alors l'Express qui a connu divers changements structurels dans son organisation depuis, parfois certains, dont l'un notamment, qui sont des vrais changements de paradigme. D'abord, il y a eu la fusion des services web et des services de magazine, donc tous ces gens-là, ce sont des services qui sont globaux sur les deux. Il y a eu quelques remous, mais visiblement les choses se passent un peu mieux. Et puis surtout, qui a été mise en place au printemps, qui est très importante, c'est la stratégie smartphone first. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les journalistes de l'Express, ils écrivent des articles d'abord et avant tout pour le web et pour donc le smartphone, et de tout ce qu'ils produisent ensuite, on choisit certains articles qui seront ensuite publiés dans le papier. C'est-à-dire que c'est l'inversion, disons, finale de tout ce qu'on a connu jusqu'ici dans la presse, avec aussi un autre changement qui pour le coup a pas très bien marché, ça j'ai l'impression, sur le site de l'Express, qui était un site qui marchait très bien et qui avait une actualité qui faisait un peu du chaud, de l'actu chaude, qui maintenant fait beaucoup plus des formats d'articles magazine. Et d'après ce que j'ai compris, il y a eu une chute assez vertigineuse du nombre de pages vues. On était à 27 millions de pages vues en février contre 61 millions 3 mois avant. Donc c'était pas un changement éditorial extrêmement fort. Mais évidemment, la question qu'on se pose d'une part, c'est est-ce que c'est un laboratoire pour ce qui va se passer à Libération? Ce n'est pas encore une stratégie que vous avez faite à Libération. Sachant que Libération, il y a un autre enjeu puisqu'il s'agit là d'un journal quotidien. Et la deuxième question, évidemment, qu'on se pose avec cette stratégie de smartphone smartphone first, c'est est-ce que la fin, est-ce qu'il faudra pas tout simplement, est-ce que vous n'avez pas tout simplement envie d'arrêter de faire du papier? Parce qu'on sait que, évidemment, la presse magazine, pour le coup, continue de décliner dans les ventes en kiosque.
Deux questions de Zoé Fès, après d'ailleurs une enquête dans les différentes rédactions, on a interrogé vos
salariés.
Vos salariés, extension programmée du papier, donc du print, comme on dit, après le mobile first, pour l'Express.
Alors, l'analyse de la situation est assez juste. Et en vous écoutant, ça me conforte dans l'idée qu'on a la bonne stratégie.
C'est pas ce qu'on vous recommandait.
L'Express sur les vues du site, visiblement, en tout cas sur l'histoire du magazine, ça marche moins bien. Vous avez perdu des visiteurs.
Mais le site, c'est normal. Vous savez, le monde Internet et l'information sur Internet, c'est un monde qui est encore immature. C'est pas figé. Ça va encore bouger. Vous regardez les sites Internet, ils se ressemblent beaucoup entre les marques d'information, notamment sur l'information chaude. Tout le monde.
Il y a des images, il y a du son, il y a du texte.
Vous prenez les unes de tous les journaux ou des news magazines français, ils sont très différents. Vous prenez leur site,
ils se ressemblent déjà
beaucoup. Donc ça va changer l'audience. Quand on dit qu'on a des millions et des millions de visiteurs uniques, vous croyez que ces millions de visiteurs uniques, ils savent tous qu'ils sont sur le site du Monde, du Figaro, du Nouvel Obs.
Ils sont souvent sur conjugaison.fr ou sur plein d'autres choses.
Donc il ne faut pas chercher la puissance à tout prix, parce que quand on cherche la puissance à tout prix, on s'éloigne des valeurs du journal.
En même temps,
c'est
ce qui permet aussi d'avoir aux journaux d'avoir une identité forte. On peut se dire que si à la fin, vos journalistes de l'Express ils travaillent très bien pour le smartphone first, pourquoi pas à la fin les mélanger avec ceux de Libé et que tout le monde fasse un peu la même chose.
C'est pas du tout ça. Il faut au contraire retrouver une identité forte sur Internet, se démarquer les uns des autres, avoir chacun une ligne éditoriale.
Mais vous croyez au papier ? Vous croyez au papier ?
On n'a pas du tout prévu d'arrêter le papier. Mais si quelqu'un ici me dit « je crois au papier », il va falloir un peu de temps pour qu'il nous explique comment ça va se passer.
Et il vous a pas toujours réussi le papier, l'aventure de la Tribune n'a pas été très heureuse.
Mais ça me dérange pas que vous disiez ça, moi j'apprends. Tout le monde perd de l'argent aujourd'hui dans le papier. Il n'y a pas un hebdomadaire en France qui gagne de l'argent.
On perd de l'argent notamment à Libération.
Il n'y a pas un quotidien en France qui gagne de l'argent. Et ceux qui disent le contraire, ce n'est pas vrai. Surtout si on enlève les subventions de l'État. Alors, donc à un moment, il faut prendre le taureau par les cornes. Et il faut se dire comment on fait. Eh bien c'est le choix qu'on a fait avec l'Express. C'est de faire le pari que l'audience sur le digital monte. Et les 200 000 abonnés dont on a besoin...
Mais elles montent vraiment ou pas? Parce que du coup, les chiffres sont assez opaques. Je sais que les journalistes eux-mêmes n'ont pas de chiffres, et notamment des pages vues par le biais de votre kiosque SFR, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de visiteurs. Mais vous ne les donnez pas, ces chiffres-là?
Et je vous réponds très naturellement. Ouais. L'audience globale, elle va baisser par choix. Parce qu'on ne veut pas faire de l'audience à tout prix. En allant chercher des sujets faciles, en montrant des vidéos qui font le buzz. On veut rester dans notre ligne éditoriale. Donc il n'y a pas de raison que sur le papier, on fasse 300 000 copies et que sur Internet, on fasse 10 millions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Essayons déjà de retrouver nos 300 000 copies hebdomadaires par des abonnements sur le digital. C'est ça la stratégie. Et demain, pour faire des recettes publicitaires et pour faire des recettes globalement, c'est pas obligatoirement la puissance. On va changer sur ce critère-là. C'est la qualité. C'est d'avoir quelques centaines de milliers d'abonnés qui financeront le journal, parce que un journal, ce qui compte, c'est pas, à mon avis, c'est pas qu'il soit en papier ou c'est pas qu'il soit sur le digital, c'est qu'il continue d'exister, qu'il y ait des enquêtes qui continuent à être faites, qu'il y ait de l'investigation. Et ça, c'est vrai que le modèle gratuit ne le permet pas. Il faut que le lecteur paye, qu'il lise sur le journal, qu'il lise sur le digital, peu importe. Nous, on va garder le papier tant qu'il sera rentable. Et dans ce modèle-là, on a trouvé une solution pour que dans notre analyse marginale, le papier sera rentable.
Donc votre but, c'est de retrouver les 300 000 lecteurs du papier, de les retrouver sur l'application de l'Express, même si ça paraît un peu compliqué.
Retrouver la rentabilité. Moi, j'ai un modèle.
On a peu de gens. On a Pierre Aski en studio. On a peu de gens qui arrivent à faire ça.
Mais moi, je lis aujourd'hui beaucoup de journaux sur le digital. Je ne lis plus le papier. Je ne crois pas être quelqu'un...
Vous êtes abonné à chaque fois ?
Oui, ceux qui sont payants, oui, je suis abonné. Je suis abonné à l'Express, je suis abonné au Point, je suis abonné au Figaro.
Mais la philosophie notamment centrale du kiosque numérique, dont on parle notamment, c'est quoi cette philosophie ? On s'abonne à SFR, ou d'ailleurs à Orange ou à Free, on a un certain nombre de journaux gratuits, pas tout à fait gratuits. Comment ça va marcher, ça ?
Mais là aussi, on mène des expériences. Et dans la même logique que pour le cinéma ou pour le sport, le kiosque presse va être payant maintenant. Parce qu'effectivement, notre modèle était intéressant dans un contexte fiscal qui n'est plus le même. C'est un sujet dont on peut parler, sur lequel je suis très à l'aise. La fiscalité a changé. Donc nous, on veut continuer parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de l'appétence de la part des abonnés pour lire leur journal sur le digital, notamment la presse quotidienne régionale. Ça marche Très bien. Donc aujourd'hui, vous vous abonnerez. Vous aurez le droit à 80 journaux. On a changé le modèle de rémunération des partenaires presse. C'est plutôt des rémunérations fixes que des rémunérations variables. Oui. Parce que sinon, le modèle était pour nous pervers. Plus ça marchait, plus ça nous coûtait d'argent. Donc ça posait un problème. On veut continuer dans la distribution digitale de la presse parce que ça marche et parce que il y a une envie de la part des lecteurs de continuer et de lire sur leur mobile.
C'est pas un peu contradictoire de valoriser d'un côté le kiosque où il y a tous les titres et où on ne sait pas forcément ce qu'on lit, etc. Et de l'autre côté, vouloir recruter des abonnés autonomes pour l'Express, comme vous venez de l'expliquer.
Je ne sais pas si c'est paradoxal, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais encore une fois, on est encore dans la logique de l'expérience. Vous voyez, moi, je vois Facebook, Google, qu'on suit régulièrement, eux-mêmes, à leur niveau, tentent des expériences en permanence. Donc c'est vrai qu'avoir le modèle qui consiste à rémunérer sur une somme forfaitaire des journaux et de l'autre côté, de chercher de l'abonné direct, c'est compliqué. Mais on veut mener les deux projets de front pour voir quelle est la meilleure solution. Mais on peut imaginer que les deux puissent aussi exister.
SFR Média, c'était un groupe avec des journaux comme Lire, Classica, Mieux Vivre Votre Argent, La Lettre de l'Expansion. Tout ça a été peu à peu vendu, y compris Studio Ciné Live. Reste donc l'Express, on en a parlé, mais aussi Libération. Pas de relance à Libération pour l'instant. On dit que les ventes kiosques seraient en dessous de 30 000 chaque jour. Et au total, un journal qui est tombé à 67 000 exemplaires avec des abonnements, le numérique et le portage journalier, si on prend les chiffres ACPM, de mars 2018, ce qui fait moins que La Croix et pas beaucoup plus que L'Humanité. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse mourir ou vous vous en désintéressez? Ou qu'est-ce qu'on fait de Libération?
Non, mais pardon, mais votre présentation focalisée sur Libération n'est pas la bonne. Si vous prenez les courbes de tous les journaux, il y en a qui font un peu mieux, d'autres qui font un peu moins bien. Mais tous les journaux sont en baisse. On a fait, nous, à Libé, une bonne année 2017 avec la campagne présidentielle, meilleure que les autres. Aujourd'hui, c'est difficile, comme ça l'est pour tous les journaux à travers le monde. Donc la seule solution, c'est de recruter des abonnés digitaux. Ça marche dans le monde. Il y a le prestigieux New York Times qui réussit très bien. Il y a le Washington Post qui réussit très bien.
Monde qui arrive à peu près. Donc
oui, mais dans une...
Qu'est-ce qui ne marche pas, Libération? Pourquoi ça ne va pas?
Ça ne va pas moins bien que chez les autres. On ne perd pas plus d'argent que chez les autres.
On est à 30 000 exemplaires par jour.
Oui, mais on a des coûts qui sont adaptés. Libération n'a jamais été un quotidien qui a fait 300 000 exemplaires. Proportionnellement à notre... je dirais meilleure période, on n'a pas un trend qui est différent des autres quotidiens. C'est le problème de la presse en général qui est posé. Et la bonne question, c'est quel est le modèle pour demain? Voilà à quoi il faut réfléchir. Moi, aujourd'hui, c'est pas tellement la baisse des ventes de Libé papier qui m'inquiète, c'est quel est le projet pour demain. Le projet pour Libé, il est en cours, il est avancé, c'est le même... que l'Express.
C'est le même que l'Express,
bien
donc,
sûr, mais comme toute la presse. Comme toute la presse. Demain, le support pour lire les journaux, le support principal, ça sera le smartphone.
Donc avec une application autonome payante et une présence sur votre kiosque.
Exactement.
Et pas la tablette.
La tablette aussi, mais la tablette n'est pas...
On voit qu'elle a eu moins 7% en 2017, on sent que ça plafonne, et qu'elle a du mal à exister entre l'ordinateur portable et le smartphone qui a grossi un peu entre les deux.
Mais à mon avis, c'est pas figé non plus. Il y aura demain une tablette chinoise qui va arriver, avec un prix beaucoup plus bas, et qui pourra relancer les choses. Parce que la tablette d'Apple coûte cher, mais c'est quand même un outil exceptionnel.
Pour terminer, juste une dernière question. La marque Altice remplacera complètement SFR?
Non, ça avait été envisagé un moment.
Oui, ça avait été même annoncé en septembre dernier.
Dans la nouvelle stratégie qu'on a mis en place avec Patrick Drahi, l'idée c'est plutôt de se concentrer sur ce qui existe. La marque SFR, c'est une des marques françaises qui a la plus forte notoriété. Donc ce n'est pas une priorité d'avoir une marque globale. Et le fait que nous séparions le groupe en deux entre les États-Unis et le reste du monde nous convainc un peu plus qu'on a intérêt à travailler avant tout avec nos marques locales qui sont fortes.
Merci infiniment Alain Veil d'avoir été notre invité ce soir pour survoler et essayer d'entrer dans un certain nombre de sujets assez nombreux autour de SFR, du groupe que vous dirigez, d'Altice France, d'Altice Europe, ainsi que des différents titres médias, BFM TV, RMC, L'Express ou encore Libération. Les références de cette émission ce soir, articles, musique, livres, sont à retrouver sur la page de Soft Power sur le site de France Culture. Vous pouvez également vous abonner au podcast de Soft Power. Soft Power est également disponible sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power, ça continue. 20h10, le débat, le numérique et politique. On parle ce soir de l'interdiction du téléphone portable à l'école. Et puis dans un instant, c'est-à-dire tout de suite, à 20h, Zoé Sfès, votre invité innovation.
Julien Gossa qui vient d'entrer dans le studio, qui est maître de conférence à l'Université de Strasbourg et avec qui on va parler de la plateforme Parcoursup et de son de ses algorithmes.
Tout ça à suivre après Nerd sur France Culture. À l'instant, alors que Nerd, Don't Do, Do It, on écoute ce morceau, un mot sur le rachat en cours du catalogue d'édition d'EMI, l'ex-major britannique, qui est récupéré par Sony. Alors on le sait, l'industrie de la musique est construite en général autour de deux types de droits, les droits sur les enregistrements, d'une part, c'est-à-dire les morceaux comme celui de Nerd que vous écoutez, ou l'interprétation qui en est faite par les artistes, et d'autre part le publishing, c'est-à-dire les droits sur les musiques, les partitions ou encore les paroles. Alors on s'en souvient, l'ancienne major EMI avait été rachetée par le français Universal pour ce qui concernait le catalogue d'enregistrement, alors que le catalogue d'édition, lui, avait été racheté par un fonds souverain d'Abu Dhabi, par les héritiers de Michael Jackson et par Sony, major japonaise de la musique. La semaine dernière, Sony a choisi de racheter pour 2,3 milliards de dollars la part des Émirats Arabes Unis pour reprendre le contrôle de l'ensemble des partitions de morceaux d'EMI, un catalogue immense que Sony détiendra donc désormais à 90%. Alors, à l'âge du streaming, tout ça va donner un pouvoir important à EMI de négociation et renégociation parfois sur les droits des musiques qui lui appartiennent, alors même que les interprètes peuvent être, eux, joués différemment sur Spotify, Apple Music ou encore Deezer. À l'instant, Nerd, un groupe qui avait signé initialement avec l'anglais EMI, qui est passé chez l'américain Columbia et se retrouve désormais chez le japonais Sony.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfès.
Bonsoir Julien Gossa.
Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en informatique à l'Université de Strasbourg. Vous tenez par ailleurs, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut vous lire, un blog assez riche sur EducPro, qui est une plateforme rattachée au site de l'étudiant, étudiant qui faisait naguère partie du groupe d'ailleurs, que Patrick Rail a racheté, mais qu'il a ensuite cédé. C'est pour faire un petit lien avec notre émission précédente. Et dans ce blog, vous écrivez bien sûr sur l'évolution de l'université, évidemment beaucoup sur les enjeux informatiques qui sont liés à toutes ces questions. Vous êtes l'auteur de plusieurs articles d'ailleurs assez passionnants sur la plateforme Parcoursup. Vous avez suivi, disons, toutes les évolutions de ces questions depuis le scandale de la plateforme APB, sa prédécessrice. Vous êtes nombreux d'ailleurs, il faut saluer ici le travail aussi d'Olivier Herched, alias Affordant sur Twitter, qu'on a aussi beaucoup lu sur ces questions. Et on est ici avec vous pour parler finalement de ce changement de paradigme réel que représente la plateforme Parcoursup, Parcoursup dont on parle beaucoup, avec un hashtag parfois parcours supercherie qui a fleuri sur les réseaux depuis que ce parcours est utilisé par les élèves. Mais avant qu'on en parle concrètement, est-ce que vous pouvez me donner quelques éléments de contexte? C'est-à-dire que cette plateforme, elle est née après une autre qui s'appelait APB et qui elle-même suivait d'autres moyens de répartir, disons, les élèves dans les parcours supérieurs. Moi, à mon époque, ça s'appelait Ravel. Quelles ont été, disons, les évolutions de ces algorithmes, de ces machines, ou en tout cas de ces manières souvent automatisées d'organiser la manière dont les élèves entraient dans le parcours supérieur au cours du temps?
Alors, l'idée est assez simple, c'est que quand on veut affecter des bacheliers dans l'enseignement supérieur, on se retrouve avec un problème au niveau de toutes les filières sélectives qui sont que les bacheliers veulent évidemment les meilleures formations et les formations veulent évidemment les meilleurs bacheliers. Donc avant on avait un double système, un système qui était sélectif d'un côté, qui était... APB était au centre, et ce que essayait de faire APB, c'est que il utilisait un algorithme qui permettait de donner la priorité à la fois aux formations et à la fois aux bacheliers, en essayant de satisfaire un petit peu les deux.
C'est-à-dire que les formations pouvaient choisir, avaient quand même une entrée sur les bacheliers, enfin sur le classement, et pouvaient choisir un peu les meilleurs élèves, mais on avait aussi une partie qui prenait en compte que les élèves soient le plus satisfaits possible dans leur souhait.
Exactement. Les élèves faisaient une hiérarchie des vœux, on appelait ça, c'est-à-dire classer les formations où ils voulaient aller, et l'algorithme essayait de les satisfaire au mieux. Donc sur le premier tour, on avait 60% de satisfaction sur le premier vœu. À côté de ça, on avait des filières non sélectives, et les filières non sélectives, on y rentrait simplement en ayant le bac, c'est-à-dire que à l'ancienne époque, il suffisait de...
se pointer à l'université.
À l'université avec son bac en poche, et on payait ses frais d'inscription, et puis on allait là où on voulait. Avec APB, au début, c'était uniquement les filières sélectives. On a commencé à y rajouter les filières non sélectives, mais c'était seulement pour des problèmes administratifs et techniques, pour que ce soit plus simple. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 10 ans de ça, on a commencé à avoir l'autonomie des universités. On a eu un boom démographique. Les budgets n'ont pas suivi. Et comme les bacheliers avaient la totale liberté de choisir leur filière, on s'est retrouvé avec des tensions, dans les filières en tension, où on ne pouvait plus recevoir tout le monde, et c'est là où le fameux tirage au sort est arrivé.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que des filières, on a appliqué un système qui était uniquement destiné aux filières sélectives, finalement à toutes les filières, pour plusieurs raisons, simplicité administrative, mais aussi parce qu'il y avait tension dans les filières qui n'étaient pas censées être sélectives.
Exactement.
Donc on a généralisé la sélectivité d'une certaine manière.
Toute l'idée de Parcoursup est celle-là, c'est qu'effectivement, comme on avait quelques filières en tension, on avait deux moyens de régler ça, soit on remettait du budget pour arriver à augmenter le nombre de places, soit on utilisait exactement le même système qui se faisait pour les filières sélectives sur les filières non sélectives, c'est-à-dire que quelque part, on affaiblit la liberté des bacheliers de choisir leur propre orientation et on confie une part de la décision de cette orientation aux universités, aux institutions.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, vous l'avez dit. Donc on est dans une espèce de primauté, disons, du choix de la formation elle-même sur les élèves, puisque du coup on n'a plus de hiérarchie de vœux dans Parcoursup, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? On a vu avec ces élèves qui, pour la moitié d'entre eux, reçoivent des messages qui leur disent qu'ils sont en attente.
Voilà, alors toute l'idée de Parcoursup, c'est de dire pour que les formations choisissent leurs élèves et pour que les élèves choisissent leur formation, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre la moitié des élèves en attente des choix de la première moitié. Donc c'est ce qu'on a vu à l'ouverture de la plateforme Parcoursup, la moitié des candidats qui avaient tous leurs vœux en attente. En réalité, cette attente, elle était sur la première moitié, les mieux classés, qui eux étaient en train de faire leur choix, et cette première moitié mieux classée était elle-même en train d'attendre le premier quart le mieux classé qui devait aussi faire son choix, qui attend lui-même le premier 16e mieux classé, etc., etc., etc.
Mais ça veut dire aussi que les jeux sont beaucoup plus faits au moment où on passe son bac, je dirais même avant qu'on passe son bac, que ce n'était le cas auparavant, en réalité, avec Parcoursup.
Alors, en réalité, puisque effectivement tout le classement se fait sur les notes de contrôle continu, on se retrouve avec un système d'orientation un petit peu plus tubulaire, c'est-à-dire que au meilleur vous êtes au lycée, au mieux vous pourrez avoir une formation dans le supérieur. Les mieux classés choisissent plus facilement leur formation.
C'est un changement de paradigme aussi politique et même presque philosophique, parce qu'il y avait aussi cette espèce d'idée qu'on peut se réinventer à la fac dans un pays comme la France.
Exactement, c'est-à-dire que cette espèce de remise à zéro qu'on avait à l'université et qui n'était pas insensée, puisque les cours n'ont strictement rien à voir dans l'université et dans le secondaire, là ça va être beaucoup plus difficile, il va y avoir une forme de continuité dans les parcours.
Autre conséquence très importante de ce changement de paradigme avec l'entrée en jeu de Parcoursup, c'est qu'il y a une immense concurrence concurrence aussi, non seulement entre les élèves, mais entre les parcours de formation supérieure, donc entre les universités. Donc ça va complètement, ça renforce encore ce que mettait en place déjà la loi sur la réforme de l'université, sur
Exactement.
L'autonomie des universités.
Alors ça, c'est le second effet, c'est que les filières vont devoir se mettre en concurrence pour arriver à obtenir les meilleurs bacheliers, forcément. Donc cette concurrence, elle va se matérialiser, elle se matérialise déjà au niveau des universités qui vont essayer de piquer les meilleurs candidats aux autres universités, mais en fait elle va se matérialiser, elle se matérialise déjà à l'intérieur même des universités,
où les facultés internes.
Voilà, les facultés vont essayer de prendre les meilleurs candidats aux facultés d'à côté, et y compris au niveau des diplômes, puisque avec ce système où on va pouvoir sélectionner les meilleurs étudiants, un diplôme pour arriver à survivre, si vous êtes face à un amphi qui déborde, 600 personnes, tous les diplômes sont évalués en fonction de critères de performance. Ces critères de performance, par exemple, le taux de réussite, le taux d'insertion professionnelle, le taux de pression, qui sont extrêmement difficiles à améliorer. D'ailleurs, avec plus de moyens, on peut essayer d'améliorer ces choses-là, mais en général, on n'a pas des résultats extraordinaires. Une très bonne façon d'améliorer ces indicateurs de performance, c'est de recréer, parallèlement à ça, une petite filière extrêmement sélective. C'est-à-dire, on a un amphi de 600 personnes qui sont venues là parce qu'ils en avaient envie. À côté de ça, on va faire une petite structure de 30 personnes, triées sur le volet, qui va prendre les meilleurs candidats parmi les 600 personnes de l'amphi à côté, et qui donc, naturellement, comme c'est les meilleurs élèves, va avoir de bien meilleurs indicateurs de performance.
Dernière spécificité de Parcoursup, on a aussi mis bout à bout, mis côte à côte, des parcours, des filières très sélectives, des filières qui ne sont pas censées l'être, et puis des filières complètement privées aussi.
Exactement, donc Parcoursup a été prévu comme ça, hein. On va vouloir y rentrer toutes les filières, y compris les filières payantes privées, en fait on en fait un grand catalogue national de toutes les filières du supérieur, ce qui va permettre aux étudiants de faire leur choix, de les comparer dans une concurrence quasi parfaite entre toutes les formations du pays.
Et une dernière question qu'on a posée hier, la semaine dernière, ici dans Soft Power, dans le débat le numérique et politique. Est-ce qu'on a vraiment besoin, et c'est la question que certains se posent, d'un algorithme, d'une machine pour résoudre ces problèmes, à savoir ceux du parcours supérieur, avec évidemment tout ce qu'on a ciblé, tous les problèmes qui se sont posés, toutes les frustrations que ça peut créer. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un algorithme? Qu'en pensez-vous ?
Je crois que ce que prouve Parcoursup, c'est effectivement que pour certains problèmes extrêmement difficiles, comme l'affectation de 800 000 bacheliers sur 13 000 filières, une machine fait bien mieux que l'humain. C'est-à-dire que quand on attend que les 800 000 candidats choisissent les uns après les autres, renoncent pour donner les vœux, etc., ça va prendre extrêmement du temps, du stress. Il n'y a rien qui dit que les choix seront meilleurs. Alors que quand on laisse faire la machine, elle est faite pour ça, elle va avoir la tête froide, la machine a la tête froide, et elle va pouvoir calculer une solution qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus vite.
Et quid de la transparence, justement, dans ces questions-là? Vous êtes en train de nous dire, en gros, l'algorithme, c'est pas le problème, c'est pour les présupposés qu'on lui donne, en fait, c'est la manière dont on le construit, donc s'il y a des critiques, elles doivent être à cet endroit-là. Dernière question, évidemment, on l'a dit, l'algorithme est censé être transparent, on a été le regarder, Frédéric et moi, on pouvait pas y comprendre grand-chose, vous avez fait un très bel article de blog qui nous explique très bien la manière dont tout ça se fait. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on aille au bout de la transparence? À la fin de tous ces débats qui ont eu lieu depuis ces dernières semaines, est-ce que vous, est-ce que moi, on a le droit de demander concrètement comment chaque élève a été classé?
Alors, il y a effectivement deux niveaux. Il y a l'algorithme national qui fait l'affectation, et puis après, il y a ce qu'on appelle les algorithmes locaux, qui vont en fait trier les candidats dans chacune des formations. C'est les commissions d'examen de vœux qui font ça. Il y en a une par formation, donc il y en a énormément en France.
Hein, 13 000.
Il y en a plus de 13 000, exactement. Il y a de fortes chances pour que ce classement soit soumis tout bêtement à la loi informatique et liberté, c'est-à-dire que chaque candidat puisse demander comment a été triée sa candidature en obtenant la totalité des critères. Hein. Si vous allez voir le texte de la loi, ça va jusqu'à la pondération, donc la pondération entre les notes, la façon dont on a calculé la moyenne.
C'est important que les gens le fassent, ça ?
Oui, c'est important parce que...
Vous êtes parent, il faut que vous le fassiez.
Oui, alors parent, il faudra voir parce que c'est quand même le candidat qui est impacté en premier lieu. On est en train de changer tout le système d'orientation dans le supérieur de tous les bacheliers de France. Il est très important qu'on sache exactement comment les gens sont classés.
Merci beaucoup Julien Gossa. Donc j'invite tout le monde à retrouver votre blog Éduc Pro. On vous mettra le lien évidemment sur Twitter et dans la page de l'invité Innovation de Soft Power. Merci beaucoup.
Merci, bonsoir.
Le temps de vous dire que demain matin sur France Culture, dans les matins, Guillaume Erner recevra l'économiste Daniel Cohen. France Culture, 20h13.
Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
20h10, le numérique et politique. Le débat de ce soir est consacré à la proposition de loi en discussion à l'Assemblée nationale. Faut-il interdire le téléphone portable à l'école? Et si oui, comment? Romain Pigenel, ancien conseiller du président François Hollande, cofondateur de Futur.io, et Elliot Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG Le Mouvement.ONG, sont là pour en débattre avec nous. Faut-il interdire les smartphones et les téléphones portables dans les établissements, j'y arrive, scolaires? Ce jeudi, une proposition de loi sera examinée à l'Assemblée nationale pour faire interdire justement ces téléphones portables à l'école. Depuis 2010 déjà, le code de l'éducation interdit leur utilisation sur le temps scolaire. Faut-il interdire les téléphones portables dans les établissements? Cette interdiction doit-elle passer par une loi comme celle qui arrive en discussion à l'Assemblée nationale? Et si oui, comment faire? On commence par vous, Romain Pigenel.
Merci pour ce privilège. Déjà, pour prendre un tout petit peu de recul, d'où ça vient et où ça va, je pense qu'il y a trois questions à laquelle il faut répondre et dont cette interdiction et à laquelle cette interdiction tente de répondre. C'est d'abord le paradigme nouveau qu'on connaît tous, qui est celui alors de l'économie de l'attention, la sursollicitation attentionnelle, etc. Je ne vais pas en faire des tonnes, nos auditeurs connaissent ça par cœur, c'est comment on est de plus en plus dans une sursollicitation, une dilapidation de capital attentionnel, et on la sent nous en tant qu'adultes, et on peut imaginer que sur des ados, des gamins en formation, elle est évidemment plus forte, et à vrai dire, comme c'est des phénomènes récents, on ne sait pas encore, je dirais, quel impact ça aura sur le temps moyen et le temps long, sur le type d'individu, de cerveau que ça va former. Il y a un deuxième sujet, qui est celui des appareils qui portent cette révolution, et on sait que c'est en grande partie, de manière importante, le mobile, parce que c'est par le mobile, justement, que les technologies informationnelles, le web, ont cette capacité d'être tout le temps sur nous et sur sollicité. Et quand on dit le mobile, c'est pas suffisant, parce que en France, le mobile, c'est quoi? C'est à 90% Apple ou Android, et sur ces 90%-là, c'est très majoritairement Android et donc Google. Donc c'est aussi la question de savoir à partir de quand on veut laisser, y compris des jeunes en formation, être sous, je dirais, l'emprise finalement d'un système d'exploitation qui après va imposer des façons de penser, des façons de se rapporter à la technologie. Puis un troisième sujet qui est celui de comment est-ce qu'on arrive à passer finalement du statut de consommateur passif de ces technologies-là à celui d'utilisateur averti. Et moi ce que je vois, alors j'enseigne pas dans le secondaire, mais dans le supérieur, et c'est des étudiants en supérieur qui, y compris, peuvent être très habiles à manier le digital, ils ont souvent une mauvaise compréhension des tenants et aboutissants derrière, que ça soit comment ça fonctionne technologiquement, les problématiques d'algorithmes, et évidemment tout ce qu'il y a comme impact économique et social derrière. Donc il y a, à mon avis, en tout cas, un sujet à traiter. Après, la question, c'est de savoir comment, oui ou non, voilà.
Elliot Lepers, sur ce sujet, je précise juste que, selon les données dont on dispose, 93% des 12-17 ans, puisque c'est de eux qu'il s'agit, ont un téléphone mobile aujourd'hui.
Moi, je pense que cette loi, elle prend un peu le problème à l'envers, parce que effectivement, l'interdiction, elle existe déjà depuis 2010. Donc voilà, ça inverse un peu la problématique, puisque ça permet aux établissements de décider d'exclure des lieux de l'établissement de cette interdiction. Mais surtout, c'est une réponse qui est une réponse autoritaire, un peu bête et méchante, à un problème qui est pour moi beaucoup plus large et que le gouvernement ne traite pas aujourd'hui. L'argument qui nous brandit, c'est celui du cyberharcèlement, qui est un fléau dans les collèges.
Et qui se passe souvent le week-end ou le soir.
Et voilà, cette interdiction sur le temps de travail à l'école, elle ne permettra pas d'endiguer le problème du cyberharcèlement. Et c'est pour moi ça qu'il faut questionner. C'est plutôt que de questionner l'outil, l'objet, il faut s'interroger sur les usages, tout simplement. Savoir comment est-ce qu'on éduque, comment est-ce qu'on forme ces jeunes qui, de plus en plus jeunes, ont accès à des contenus qui ne sont pas de leur âge, évidemment sur la pornographie, et puis qui, derrière, emploient des usages qui sont nocifs, qui sont néfastes, et qui, aujourd'hui, sont un vrai problème de société. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive, plutôt que de simplement interdire le portable, d'abord, effectivement, à créer les enjeux pédagogiques, parce qu'il faut apprendre à utiliser ces appareils. Et puis, c'est aussi comment est-ce qu'on éduque à l'égalité. Et aujourd'hui, c'est là-dessus que ça devrait se jouer. C'est un engagement d'Emmanuel Macron d'éduquer à l'égalité à partir de la maternelle. Pour l'instant, on ne sait pas encore comment ça va se faire. Et avec cet argument d'interdiction un peu d'autorité, on a l'impression d'une réponse un peu réactionnaire qui fait plaisir aux mêmes personnes qui se sont opposées à l'éducation à l'égalité à l'école. Donc, c'est là-dessus que le paradoxe m'inquiète.
Il y a aussi un paradoxe et une contradiction qu'on vit tous. Un exemple, mais j'ai fait une conférence il y a quelques jours dans un lycée, et ceux qui utilisaient le téléphone pendant ma conférence, c'était les professeurs et le proviseur, non pas les élèves. Donc, comme quoi, tout le monde utilisait le portable et pas simplement les élèves. Deuxième chose, les parents eux-mêmes ont un discours contradictoire. Ils veulent pas que leur enfant soit sur le smartphone pendant les cours, mais ils sont les premiers à refuser qu'on enlève les portables de leurs enfants, des mains de leurs enfants. enfants parce que ils l'ont acheté pour des raisons, disent-ils, de sécurité, pour savoir quand l'enfant, si tout va bien, et quand l'enfant va sortir à l'école, si un prof est absent, par exemple, est-ce qu'il va falloir venir les chercher plus tôt ou des choses comme ça. Et donc les parents tiennent absolument à ce que leurs enfants aient un téléphone portable à l'école. Donc on voit bien qu'on a tous beaucoup de contradictions sur ces sujets, Romain Pechenel.
Et pour autant, moi, après avoir beaucoup réfléchi et aussi, y compris en préparant cette émission, je pense quand même que c'est pas totalement une mauvaise chose d'aller dans le sens du contrôle par la loi. Je pense qu'il y a deux libertés à protéger. Il y a d'abord la liberté, je dirais, des gamins, des jeunes par rapport au portable, parce que la discussion même qu'on a là montre qu'aujourd'hui on est quand même dans un état un peu de dépendance, de surutilisation de ces technologies-là. Et moi, je le répète que c'est important, c'est pas les technologies qui sont neutres. Elles sont aujourd'hui principalement dominées par quelques acteurs et donc elles ont un effet après des effets de long terme sur la façon dont on utilise Internet, les plateformes qu'on va utiliser, etc. Donc d'abord, il faut aider les enfants à s'émanciper. Donc moi, ça me choque pas de ce point de vue-là qu'il y ait un espace qui soit un peu protégé, un peu sanctuarisé, tant que ça ne devient pas le fait d'ignorer totalement l'existence du portable. Et là, moi, je partage totalement ce que dit Elliot. Il faut effectivement qu'il y ait beaucoup plus d'enseignement au numérique. Il ne faut pas que ça soit... on entend souvent, on dit, il faut l'enseignement au numérique, ça avance pas tant que ça. Mais il faudrait justement qu'il y ait à la fois des cours spécifiques là-dessus et que de manière transverse, on introduise en littérature, en économie, cet aspect-là. Donc d'abord, protéger quand même les enfants et les aider, même parfois malgré eux, à déconnecter. Et puis aussi, protéger la liberté pédagogique des profs. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord, effectivement, leur permettre, mais je crois que la loi le fait, de pouvoir introduire le portable dans le cours s'ils le souhaitent.
Oui, parce que c'est souvent le cas aujourd'hui. Voilà. Les profs discutent avec leurs élèves sur Facebook, on donne des travaux qui doivent être faits, modifier une page Wikipédia ou tout un tas de choses comme ça. Donc c'est paradoxal, là encore.
Mais aussi, alors, à contrario, la liberté pour les enseignants qui ne sont pas à l'aise avec ça ou qui ne savent pas comment faire ou qui ont affaire à des classes, moi j'en connais un peu dans l'environnement familial, qui sont des classes difficiles, où j'ai des problèmes de perturbation par rapport à l'attention, etc., de dire, bah non, là c'est un espace protégé, on peut faire sans. Et par ailleurs, il ne faut pas être dans l'espèce d'obsession du smartphone. On peut travailler sur le numérique, et expliquer le numérique sans forcément que ça passe par le téléphone portable, qui reste quand même, quand on est un peu enseignant, on le voit, un outil aussi de distraction. Moi, si j'avais l'âge des enfants d'en parler,
prof est ennuyeux,
voilà, on va sur le téléphone. Donc, voilà, je pense que c'est quand même bien un moment de remettre des bornes. Après, il faut faire en sorte que la loi soit applicable.
Alors, comment on fait concrètement, parce qu'il y a plusieurs questions. Est-ce qu'on l'interdit complètement? Est-ce qu'on l'interdit, et par exemple, il y avait la question d'installer des casiers pour sécuriser les téléphones à l'entrée des établissements, où les enfants poseraient leur portable dans ces casiers, mais avec la difficulté, c'est que d'abord, un collège, par exemple, de 800 élèves, ça veut dire 800 casiers, c'est compliqué, il faut des clés. En plus, c'est évidemment très facile d'aller casser ces boîtiers et de voler les téléphones, donc il y a un gros problème qui surgit. Il y a l'histoire des brouilleurs dans les établissements scolaires, qui était une idée aussi. Mettre un brouilleur dans un collège du 17e ou d'arrondissement de Paris, c'est brouiller peut-être une partie du quartier autour, donc autre problème. Et puis, il y a la question aussi de la manière dont on peut laisser les élèves avoir leur portable, mais les obliger de les garder dans leur cartable ou dans leur sac. Comment vous voyez la solution, Elliot Lepers?
En 2012, il y avait la question avait été posée à Vincent Peillon à l'époque, qui était ministre de l'Éducation nationale. Et il y a un article du Code des postes et des communications qui interdit l'implantation des brouilleurs. Donc c'était la réponse à l'époque de la rue de Grenelle. Effectivement, aujourd'hui, légalement, c'est compliqué d'installer un brouilleur dans une école. Et puis, évidemment, la question qu'abordait tout à l'heure Romain, qui est de dire...
Mais sur ce sujet, il suffit, la loi, et pour ça, on peut changer la loi. Enfin, oui. C'est justement un débat à l'Assemblée nationale pour le permettre.
C'est aussi une question philosophique de considérer, est-ce qu'on peut, sur un temps scolaire qui est un temps important, c'est 30-35 heures par semaine, est-ce qu'on peut effectivement empêcher... techniquement, physiquement, l'accès à Internet, l'accès à la communication externe de l'établissement. Ça pose des questions aussi philosophiques, tout simplement, dans un monde...
Les profs eux-mêmes ne pourront plus l'utiliser, etc.
Mais dans un monde aussi où on a accès à Internet en permanence sur notre lieu de travail quand c'est le cas. Donc voilà, la question effectivement du brouillage, elle est compliquée. Et c'est aujourd'hui ce qui est le plus problématique, et c'est pour ça que cette loi intervient, c'est que effectivement, l'interdiction, elle n'est pas appliquée dans les lycées parce qu'il n'y a pas de solution idéale.
Miracle,
ouais.
Je crois qu'il faut être simple. Effectivement, l'histoire des casiers, elle semble totalement délirante. Moi, le brouillage, pareil. Enfin, on imagine tout ce que ça peut entraîner comme problème. Et par ailleurs, je pense que ça change pas le problème de fond. Enfin, moi, auquel je tiens aussi en tant qu'enseignant, c'est la capacité à se déconnecter. Le problème, c'est pas juste d'avoir un téléphone qu'on pourra pas utiliser. C'est de se dire, à un moment, on n'est pas forcé d'avoir toujours le nez sur 2, 3, 4 écrans et on peut se consacrer sur le cours. Et quand il y a un cours où on parle de digital, on a besoin, on est en capacité d'y retourner. Moi, je pense qu'il faut simplement arriver à mettre dans la tête des jeunes l'idée que par défaut, justement, c'est pas quelque chose qui est automatique, comme les antibiotiques, pour reprendre la formule bien connue. Et cela, C'est pour ça que la loi me semble intéressante. En inversant un peu le paradigme, puisqu'on l'a dit dans la version précédente qui avait dans le code de l'éducation, c'était s'interdit en classe, mais après il faut réglementer établissement par établissement, est-ce que c'est autorisé ou non dans les couloirs, dans la cour. Là au moins, ça me semble avoir...
La récréation, les toilettes, certains mettent même des gardiens devant les toilettes pour pas qu'ils utilisent les téléphones portables dans les toilettes, ce qui est un peu absurde, puisqu'à un moment, c'est un autre endroit...
Mais là, ce qu'on peut se dire avec cette loi qui est finalement, alors, basiquement simple, et de ce point de vue-là, était un peu caricatural, c'est qu'elle au moins, elle inverse le paradigme, et on peut penser qu'avec le temps, si elle s'installe ça, elle mettra dans l'idée que, à l'école, on a plutôt tendance à ranger le téléphone dans le cartable, justement, et après, c'est plutôt à titre exceptionnel qu'on le sort quand on a le temps, quand on a l'envie, etc.
Éliott Lepeyre, et puis il faudrait peut-être aussi voir, c'est quoi le périmètre de cette loi? Est-ce qu'on le sait? Parce qu'on avait tendance à dire que c'était pour le collège, ça veut dire qu'au lycée, on pourrait utiliser son portable, on ne sait pas trop où le débat va aller aussi. Parce qu'évidemment, il y a des questions d'âge. Il est interdit au moins de 13 ans de s'inscrire sur les réseaux sociaux, hein, par exemple. Et en France, la majorité numérique est désormais fixée à 15 ans. C'est-à-dire qu'entre 13 et 15 ans, l'accord parental est nécessaire pour s'inscrire sur un réseau social. Au-delà de 15 ans, c'est évidemment beaucoup plus facile.
Oui, d'ailleurs, on a vu que Twitter a commencé à supprimer tous les comptes d'utilisateurs en France qui avaient moins de 16 ans, avec les contestations qu'on a vu émerger par la suite. Donc c'est aussi intéressant parce qu'ils ont filtré de manière un peu arbitraire des élèves qui avaient, enfin, des personnes qui avaient plus que 16 ans. Mais moi, effectivement, je pense que poser un interdit physique ne règle pas le problème de fond, qui est le problème de l'attention, de comment est-ce qu'on apprend à toute une génération et à toutes les générations qui viennent à savoir se servir intelligemment et avec componction d'appareils qui génèrent une dépendance très forte. C'est-à-dire qu'on leur fait pas un cadeau à ces jeunes de simplement leur interdire de force à se servir d'un écran si après ils s'en servent toute la soirée jusqu'à 3h du matin. La question, c'est comment est-ce que collectivement on apprend à créer des limites, on apprend à créer des temps de déconnexion. Et donc aussi, comment est-ce que les créateurs d'applications, parce que la question va jusque-là, comment est-ce que les créateurs d'applications intègrent cette dimension éthique dans le design des applications pour permettre la déconnexion, pour faciliter, pour valoriser la relation avec un monde qui ne soit pas connecté. C'est toute la réflexion du chercheur Christian Harris, par exemple. Et c'est vrai qu'on a besoin de cet apport-là, de manière académique et au sein des entreprises.
Pour préparer cette émission, j'ai interrogé un proviseur, notamment, qui sont submergés, les proviseurs, à propos de ces questions et qui vivent ça avec beaucoup de difficultés, parce que prendre par exemple le téléphone d'un élève, le garder dans le bureau du proviseur, c'est interdit. Donc il y a tout un tas de problèmes aussi juridiques que peut-être la loi va un peu résoudre. Mais la question que j'aimerais soulever peut-être pour terminer, c'est au fond, on est face à des enfants, ou parfois des adolescents, qui considèrent que le portable c'est la chose la plus importante de leur vie. Et donc on veut les priver de quelque chose qui est, à tort ou à raison, devenu tellement essentiel que parfois c'est même des drames, des pleurs à partir du moment où on leur enlève un portable.
Je dirais c'est d'autant plus inquiétant si on voit ça, et ça pose d'autant plus la question de savoir comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre que c'est pas la chose la plus importante. La question, c'est de savoir est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est un objet qui est entre le doudou, le fétiche, etc. Et je pense que remettre un peu d'interdit, c'est aussi la manière de remettre l'outil à sa juste place, c'est-à-dire un outil, on peut s'en servir et quand on n'en a plus besoin, on s'en débarrasse. Voilà.
Bon, on a essayé de faire le tour de ce sujet, pas facile. On verra comment le débat va se poser à l'Assemblée nationale. Et en tout cas, merci infiniment à Romain Pigenel, ancien conseiller du président François Hollande, cofondateur de Futur.io. Merci à Éliott Lepeyre, entrepreneur, fondateur merci. De l'ONG, le Mouvement.ng. Et j'ai un cadeau pour vous, pour terminer cette émission. Voilà, on vous a réservé ce boys band. Ils sont assez jeunes, c'est des Sud-Coréens. Le groupe s'appelle BTS ou BTS. C'est pas un diplôme de l'enseignement supérieur, mais le nom d'un groupe de boys band sud-coréen qui vient pour la première fois dans l'histoire de la musique aux États-Unis de passer en tête du Billboard. Une preuve de plus que la mondialisation de la culture, ça existe. L'influence croissante du soft power coréen, de ce qu'on appelle la K-pop ou pop coréenne. Corée du Sud, bien sûr, à ne pas confondre avec celle du Nord qui s'est lancée quant à elle cette semaine encore dans une toute autre forme de K-pop avec Donald Trump, pop coréenne dansante et changeante dont on ne sait pas trop qui sera gagnant de ce soft power qui est pour le coup du hard power. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de France Culture. Vincent Charpentier, merci à tous. 20h28 sur France Culture. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne. Yeah, 내 심장이 찢겨져